Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Rav Lemel, bonsoir et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Alors on est en pleine fête de Pessah. Les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils arrivent devant la mer s'ouvre, les délivre, peut-être qu'on peut dire une deuxième fois. Et il y a cette fameuse phrase de la Torah, c'est un passouk qui dit « Az Yashir Moshe » qu'on lit tous les matins, juste avant d'arriver à Bar Echou. Et donc, pourquoi cette deuxième épreuve ? Tout le monde se pose la question. Qu'est-ce qu'elle représente ? Et qu'est-ce que vous avez surtout envie de nous enseigner à ce sujet-là ?
Exact, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, on s'appelle Bechipazon, dans la hâte. Ils sont dans leur chemin vers le Sinaï. Et puis là, justement, eh bien, arrive le septième jour, cette fameuse mer, Yam Souf, la mer d'Éjon, qui est devant eux. Et donc, le texte nous relate qu'en effet, eh bien, les enfants d'Israël se retrouvent devant cette mer et Vine Mitzrayim Noséachareem et l'Égypte les poursuit. Intéressant de voir que le texte ne dit pas que ce sont les Égyptiens, mais c'est l'Égypte et disent les maîtres du Zohar qu'en effet, il ne s'agit pas juste des Égyptiens, mais ils constatent que c'est Sarosh El Mitzrayim, le prince d'Égypte, c'est-à-dire ce qui représente dans les mondes spirituels l'univers de l'Égypte qui les poursuit. Et ils sont là, ils sont bloqués devant la mer avec les Égyptiens qui arrivent. Ils sont dans un lieu dans lequel il y a encore une divinité égyptienne qui tient debout. Et c'est intéressant de voir, nous dit le Midrash, car cette divinité égyptienne qui est là, eh bien, elle est celle qui justement a permis au pharaon de reprendre entre guillemets courage, de se dire oula, il y a encore une divinité qui tient debout, c'est peut-être cette divinité qui va pouvoir m'aider à lutter contre Dieu, alors qu'il vient de supplier Moshe de partir avec le peuple d'Israël. Et donc le peuple d'Israël est là, et devant cette mer, et à ce moment-là, eh bien, on se trouve face à un moment très particulier de l'histoire, puisque c'est le moment dans lequel le cantique des cantiques, un des versets des cantiques décrit les choses de la manière suivante. Yonati bechag ve'asela, ma colombe est cachée dans la fractuosité des roches. Beseter amadriga hareni et marair. Dieu dit, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est agréable et ton visage est beau. Et dit le Midrash, eh bien, c'est la posture du peuple d'Israël. Pourquoi cette colombe qui est cachée dans la rocaille? Parce qu'elle a vu planer sur elle un aigle, mais se cachant dans la rocaille, elle voit arriver à sa rencontre un serpent. Et elle se retrouve un petit peu coincée entre d'un côté qu'un serpent qui vient à sa rencontre et de l'autre côté cet aigle qui tourne dans le ciel. Et dit le Midrash, ça c'est la posture du peuple d'Israël, coincé entre d'un côté l'Égypte qui les poursuit, de l'autre côté cette mer. Et là Dieu dit, « Hareni et marair, montre-moi véritablement ton visage, fais-moi écouter ta voix. » Dieu dit au peuple d'Israël, eh bien voilà, ce moment totalement inattendu de la libération, puisqu'on a l'impression qu'on était libéré, et brusquement il y a quelque chose qui est là et qui semble tout bloqué. Montre-moi, peuple d'Israël, ce que tu es capable de faire. Et c'est la fameuse histoire de Narshon ben Aminadav, donc de cet homme du peuple d'Israël qui va se précipiter à l'eau, qui va avancer, qui va aller jusqu'au bout. Et quand l'eau arrive quasiment à sa bouche, alors c'est à ce moment-là où le bâton de Moshe s'étendant va ouvrir cette mer qui se refermera par la suite sur les Égyptiens. Évidemment, ce miracle, il est exceptionnel parce que tout simplement, il représente au fond tout l'enjeu de l'histoire du peuple d'Israël, parce que en effet, Israël se retrouve parfois dans son histoire face à des situations dans lesquelles il se dit mais comment allons-nous faire ? Hareni et marair, et Dieu lui dit, mais montre-moi justement ce que tu es capable de faire, c'est-à-dire comment tu es capable de te dépasser. Alors là-bas, ce dépassement, au fond, c'était quoi? C'était d'aller jusqu'au bout. Au fond, c'est l'expression de la émouna, de la foi profonde et ultime que l'on a envers le Créateur de l'univers, et qui n'est pas simple, qui se travaille, qui se construit. Vous savez, on parle de foi en Dieu, mais pour donner une image, cette image, je l'ai entendue d'un très célèbre Rav, qui est un conférencier, j'ai le bonheur d'être aussi un tout petit peu son ami, le Rav Mordechai Neugroschel, qui dit, quand on parle de foi en Dieu, de confiance, alors on en parle, mais il dit, mais au fond, ça serait quoi? Ça serait l'histoire de quelqu'un qui se retrouve en train de faire une promenade et puis qui à un moment glisse et tombe dans un ravin, un précipice qui s'ouvre sous lui et puis se rattrape à la branche d'un arbre et là, suspendu dans le vide, il n'y a personne et il commence à crier, à crier, à crier, à crier. Puis il implore Dieu, il dit « Dieu, je t'en supplie, je t'en supplie ». Et à un moment, il entend Dieu, il lui dit « Je suis là ». Il dit « Sauve-moi, sauve-moi ». Dieu dit « Mais tu crois en moi ?»« Oui, mais je crois, évidemment que je crois en toi, mais je crois totalement en toi. Tu as confiance, toi. Mais j'ai confiance, mais une confiance totale et absolue, mais absolue, totale, sûre, totalement. Tout ce que je te dis, oui, tout ce que tu me dis, je te fais confiance. » Et à ce moment-là, la voix de Dieu lui dit « Alors lâche la branche ». Et évidemment, à ce moment-là, c'est peut-être plus compliqué, parce que être capable de faire cette chose qui défie toute logique, est-ce qu'on est capable de la faire? Et alors, Mordechai Neugroschel, quand il raconte cette histoire, dit avec beaucoup d'humilité, je ne sais pas si j'aurais lâché la branche, mais ce que je suis sûr, c'est que j'ai des ancêtres qui l'ont fait. Ce que je suis sûr, c'est que dans notre histoire, en effet, on a eu des ancêtres qui ont été capables, face à des situations complètement hallucinantes, d'avancer avec une foi absolue dans le Créateur de l'univers. Et c'est au fond ce qu'ils nous ont légué, c'est ce qu'ils nous ont transmis. Et c'est un petit peu ce moment-là de l'ouverture de la mer qui va nous amener à réfléchir au travail que l'on doit faire pour renforcer très très profondément cette confiance dans le Créateur de l'univers, ce qui n'est pas simple, parce que tout simplement, même si on fait confiance à Dieu, même si on croit en lui, mais à un moment, il faut se laisser aller pleinement. Et je crois que, au fond, peut-être la première manière d'exprimer cette foi et cette confiance dans le Créateur de l'univers, c'est peut-être pas de lâcher la branche, parce que faut être capable de le faire, mais peut-être d'abord croire dans le fait que nos mitzvot, nos commandements, notre étude de la Torah, nos manières de nous comporter les uns vis-à-vis des autres ont un impact qui est au-delà de ce que l'on peut imaginer, en être profondément convaincu. Vous savez que le soir du Seder cette année, nous avons fait deux prières en plus. Une qui est écrite par le grand rabbin d'Israël, le Rav Lowe, l'autre par le Rosh Yeshiva de Mir, un des Rosh Yeshiva de Mir, le Rav Binyamin Finkel, qui est une figure emblématique, quelqu'un de très très particulier, de remarquable. L'une, on l'a dit, avant Vehish Amda, avant ce texte dans lequel on dit, c'est cette promesse de Dieu qui a maintenu le peuple d'Israël tout le temps. Et puis l'autre, juste avant ces mots, Shefor Hamatra, le moment où on demande à Dieu, à un moment, de prendre notre défense et de faire en telle sorte que, ça y est, enfin, le mal disparaisse. Ces moments-là, on a fait une fila, cette fila très particulière dans laquelle on demande à Dieu d'intervenir dans la situation que le peuple d'Israël est en train de vivre, et plus particulièrement pour celles et ceux qui sont encore emprisonnés, pour celles et ceux qui sont encore captifs et otages. Mais il faut avoir conscience à ces moments-là que c'est cette filotte-là qui vont agir. Il faut avoir conscience que c'est les mitzvot que nous faisons qui vont permettre et qui ont permis. Et je crois qu'il faut en être profondément convaincu, et on en est convaincu, que ces 99% de réussite incroyable que tout le monde a dit que c'était impossible, inimaginable. Oui, c'est la technologie, mais la technologie fournie par des cerveaux humains qui ont été créés par le Créateur de l'univers, et aussi toutes les tfilotes du peuple d'Israël qui ont là et qui participent de cela. Je crois que, avant de lâcher la branche, on peut déjà travailler sur ça, sur cette conviction profonde qui doit nous habiter, qu'en vérité, c'est le Créateur de l'univers qui dirige le monde, ce que l'on appelle la notion de Hashgacha Pratit, que c'est Dieu qui est là et que nous devons en effet être présents à travers ce qu'il attend de nous, en faisant chacun à notre niveau notre travail et en ayant conscience de l'impact incroyable que peuvent avoir les mitzvot et qu'ont les mitzvot, que chaque mitzvot que l'on fait, que chaque moment d'étude de la Torah que l'on peut avoir, eh bien, est quelque chose qui participe de tout ce qui permettra au peuple d'Israël d'arriver vers la Geoula, vers la libération finale. Et c'est ça, ce « Az Yashir », à ce moment-là, « Yashir », il chantera « Moshe Ovne Israël ». Il n'y a pas marqué ici « Az Shar ». À ce moment-là, il a chanté « Az Yashir ». C'est à ce moment-là où le chant va arriver à nouveau. Ce qui fera arriver le chant de la Geoula, le chant de la délivrance finale, c'est justement s'inspirer de cet état d'esprit qui a été présent totalement au moment de cette ouverture de la mer, au moment où le peuple d'Israël avance, il voit cette mer qui s'ouvre, quelque chose d'absolument hallucinant. Ils ne savent pas ce qui va se passer, est-ce qu'elle ne risque pas de se refermer sur eux, mais ils avancent, et là, ils inscrivent dans ce que j'appellerais la génétique spirituelle du peuple d'Israël et de toutes celles et de tous ceux qui adhéreront par la suite au peuple d'Israël, cette notion de émouna, de foi profonde dans le Créateur. Et c'est pour cela que ce septième jour de Pessah est un jour tellement important, parce qu'il représente véritablement l'aboutissement de toute une démarche dont nous sommes aujourd'hui, rappelons-nous, ceux qui validons tout ce qui a eu lieu pendant des siècles et des siècles. Et je crois que c'est important d'avoir cet état de conscience, que nous sommes ceux qui validons l'histoire par le fait que nous sommes dans la continuité de cette histoire, que nous sommes en effet toujours là, dans cette notion profonde de émouna, de confiance et de foi dans le Créateur de l'univers, en faisant ce que le Créateur de l'univers nous a demandé, c'est-à-dire en agissant de manière concrète, mais en nous rappelant que l'énergie du peuple d'Israël provient de sa Torah, de l'accomplissement de ses mitzvot, aussi bien dans le rapport à l'autre que dans le rapport à Dieu. Et c'est avec cela que l'on avance en effet vers ce que l'on appelle la Geoula Shlema, vers la délivrance finale du clan d'Israël et de l'humanité tout entière.
Et en espérant cette Geoula Shlema avec vous, en espérant aussi de sortir déjà très concrètement des difficultés qui sont les nôtres en cette année, pour nous, pour les otages, pour nos frères qui sont en Israël. Je vous souhaite de bonnes fêtes et Shabbat Shalom, Ravi Lemel.
Shabbat Shalom et Chag Sameach.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Biton à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom.
Et oui mon cher Bernard, Shabbat Shalom, Chag Sameach, Moedim Lesimcha.
Alors Rav Mordechai, vous voulez revenir vous aussi sur l'épisode de la mer Rouge et vous avez constaté qu'il y a une espèce de comptabilité de la justice divine, c'est-à-dire dans les coups qui ont été portés aux Égyptiens, les plaies, par exemple, il y a une comptabilité et on en tire un enseignement.
On va s'intéresser ici à une comptabilité, entre guillemets, comptabilité un petit peu particulière. Quand on analyse les plaies qui ont frappé l'Égypte, les Aseret Makot, les 10 plaies, mathématiquement, on peut penser qu'il ne devait pas rester beaucoup d'Égyptiens. Vous imaginez bien que dans un pays aussi chaud que l'Égypte, être privé d'eau pendant plusieurs jours, c'est être condamné à mort. Alors même si on tient compte du fait qu'il y a un certain nombre d'Égyptiens qui ont pu racheter donc de l'eau aux Hébreux, à nos ancêtres, et donc boire de l'eau, et ils n'étaient pas très nombreux, ce n'était pas la majorité des Égyptiens. Puis ensuite, après, il y a eu des bêtes sauvages, ensuite, après, il y a eu les sauterelles. Il ne restait rien dans les champs. L'Égypte était complètement anéantie au terme des 10 plaies d'Égypte. Donc malgré tout, on voit que Pharaon, pour poursuivre les Bnei Israël et les anéantir, va quand même réussir à lever une armée. D'où viennent ces Égyptiens? D'où viennent ces Égyptiens qui mathématiquement auraient dû complètement disparaître après donc les 10 plaies qui avaient prévu, qui avaient donc complètement anéanti leur pays? Alors pour essayer de le comprendre, on va essayer de regarder ce que dit la Torah sur la mort des Égyptiens lors de la traversée de la mer Rouge. Là, il y a un point qui est très intéressant. C'est marqué « Vayet Moshe et Yado Alayam » Moshe Rabbeinu va étendre sa main par-dessus la mer. Yashovayam, l'ifnot boker, et donc la mère va retourner vers son lit vers le matin, Leitano, Mitzrim, Nassim Likrato et les Égyptiens fuyaient à sa rencontre. Et le pasuk se termine, Vaener Hachem et Amitzrim Betochayam, et Hachem a précipité donc les Égyptiens au milieu de la mer. Et là, Rashi va faire un commentaire, il va dire que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est comparable à ce que ferait un homme qui remue une casserole, qui la renverse, et qui renverse l'ordre dans quel sens. Ce qui est en bas, il le met en haut, ce qui est en haut, il le met en bas. C'est ce qui s'est passé au moment donc de la mort des Égyptiens. Et il dit, Rashi, les Égyptiens montaient et descendaient, ils se brisaient dans la mer, et en fait, Akadosh Baruch Hu leur a donné de la vitalité pour endurer leur souffrance. Ça, c'est le commentaire de Rashi sur la mer Rouge. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que Rashi est en train de nous dire? Rashi est en train de nous dire ici qu'en fait, Hachem a donné de la force aux Égyptiens pour qu'ils puissent supporter leur souffrance. C'est-à-dire qu'au moment où Hachem va ouvrir la mer et donc va précipiter les Égyptiens à l'intérieur, il leur donne toute la force physique, mais également psychique et mentale, à la fois pour supporter les douleurs, mais en même temps, toutes les souffrances et les plaies qui vont leur être infligées donc, au moment de cet épisode. Alors, ce commentaire, en fait, il est valable aussi pour avant. En fait, tout au long des 10 plaies d'Égypte, Hachem va donner de la force aux Égyptiens, il va leur donner de la force, de l'endurance physique, psychique, mentale, pour pouvoir supporter, en quelque sorte, ce qui leur a été infligé. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? De quoi on nous parle quand on parle de cette comptabilité-là, de cette force qu'on va donner aux Égyptiens pour qu'ils puissent endurer donc des souffrances? Alors, la réponse est la suivante. C'est qu'en fait, ici, on assiste à un acte de justice. Parce que maintenant, il faut reprendre l'histoire au début. Pendant 210 ans, les Bnei Israël ont été cruellement persécutés. Ils ont été assassinés, ils ont été torturés, ils ont été battus, ils ont été privés de nourriture, parfois. Comment se fait-il que les Bnei Israël ont réussi à survivre? Hormis les miracles qui nous sont rapportés, qui nous disent que chaque maman mettait au monde 6 enfants, et que les enfants étaient miraculeusement cachés. Mais les Bnei Israël, mathématiquement, ils ont dû avoir la force de supporter les souffrances. Et donc on voit ici quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'en fait Hachem a donné aux Bnei Israël la force de supporter les souffrances pour survivre et pour bénéficier de la promesse qui avait été faite à Abraham Avinu qu'il serait libéré. Par contre, pour les Égyptiens, Hachem fait un autre miracle, c'est qu'il va leur donner la force de supporter toutes les souffrances pour qu'ils puissent leur infliger des souffrances qui viennent mida keneged mida, mesure pour mesure, contre tout ce qu'ils ont fait au Bnei Israël. Et donc on a deux ici, en fait, la réponse à notre question. D'où viennent ces Égyptiens qui vont donc poursuivre les Bnei Israël? Ben, ils viennent tout simplement d'un miracle. En vérité, Hachem a voulu mida keneged mida, mesure pour mesure, punir les Égyptiens de toutes les souffrances qu'ils avaient infligées durant 210 ans au Bnei Israël. Et pour ça, il fallait qu'ils aient la force de supporter les 10 plaies, il fallait qu'ils aient la force de supporter ce qui allait se passer à la mer Rouge, de manière à ce que la justice divine puisse s'appliquer ici de manière stricte. Les Égyptiens sont les Réchaïm, ce sont les impies, ce sont les destructeurs, les assassins. Ils méritent le châtiment qu'ils vont recevoir. Et la comptabilité divine, une comptabilité parfaite, en regard des 210 ans de souffrance, toutes les souffrances donc que les Égyptiens vont subir à la sortie. Il y a donc ici une équivalence parfaite. Et on a toujours un petit peu de mal à le comprendre, d'autant plus que, par exemple, les Midrashim nous disent qu'au moment où la mer Rouge s'est ouverte, les anges ont intercédé, mais tout le monde ici, les Bnei Israël étaient des serviteurs d'idoles, les Égyptiens sont des serviteurs d'idoles, et Hachem répond, non, pas du tout, les Bnei Israël, ils ont servi sous la contrainte. Ils ont servi sous la contrainte. Alors que les Égyptiens, eux, c'est une civilisation, c'est une idéologie qu'ils ont tenté d'imposer autour d'eux. En fait, ce qu'on est en train de nous dire ici va même encore un petit peu plus loin. On est en fait en train de nous expliquer que la justice divine est une justice que nous ne comprenons pas. Alors dans tous les épisodes de souffrance des Bnei Israël, la question de la justice divine a été posée. Mais là, ici, au travers de ce qu'il nous a raconté, c'est qu'en fait, on voit que Hachem, en quelque sorte, nous révèle une équivalence entre 210 ans d'esclavage et finalement un an pendant lesquels les Égyptiens vont subir des souffrances. Ça échappe à notre entendement. Mais c'est la justice divine. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Mida keneged mida, mesure pour mesure. Et ça, c'est un point aujourd'hui qui doit nous faire réfléchir. Pendant maintenant cet exil qui dure depuis pas loin de 2000 ans, les nations du monde nous ont fait souffrir. Après la Shoah, on a eu une espèce de répit. Et là, maintenant, je pense que c'est clair pour tout le monde, on retourne vers l'ancien antisémitisme, qui est un antisémitisme exterminateur. Le Hamas, l'Iran, le Hezbollah et tout leur soutien en Europe, tout leur soutien aux États-Unis sont des gens qui crient « Free Palestine ». la Palestine également, du Jourdain jusqu'à la mer. C'est-à-dire destruction complètement de l'État d'Israël, destruction de 7 200 000 juifs bientôt qui vivent ici en Israël, génocide. Et ils le disent de manière ouverte. Et les gens qui soutiennent aujourd'hui le Hamas sont des gens qui appellent au génocide, qui crient au génocide. Donc on retrouve ici, et puis on voit un silence assourdissant des nations du monde, avec de temps en temps quelques déclarations qui semblent aller dans un sens positif, mais dans l'ensemble, on voit un grand renoncement, et finalement, on voit qu'Israël n'a pas le droit de se défendre. Le peuple juif n'a pas le droit de se défendre. Il n'a qu'à se taire et subir. Et en fait, c'est inscrit sur le manteau des nations du monde, tout ce qu'elles nous ont fait pendant 2000 ans, et c'est inscrit sur le manteau des nations du monde, ce qu'elles nous font subir aujourd'hui, quand, de manière totalement injuste, elles sont là, et à soutenir des appels au génocide, ou à se taire devant des appels au génocide, ou à avoir des attitudes complètement munichoises, des attitudes de renoncement. Mais en fait, il y a là, ici, quelque chose qui est la marque des exils. C'est qu'en fait, Hachem donne de la force et de la vitalité à tous nos ennemis, pour que, au moment où la justice va s'exercer, eh bien, la justice puisse s'exercer selon toute sa rigueur. Et en fait, ce qu'ils sont en train de faire maintenant, à la fois nos ennemis et ceux qui les soutiennent, c'est tout simplement de préparer cette justice divine qui s'abattra sur eux au moment de la révélation messianique pour laquelle nous prions tous 3 fois par jour et pour laquelle nous prions également au mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le mois des Nissim, c'est le mois donc de la libération. On a été libéré en Nissan, on sera libéré également au mois de Nissan. On prie pour la révélation messianique à ce moment-là. Mais nos sages nous disent que cette révélation, elle se fera aussi dans la perspective d'un règlement de justice avec les nations du monde qui nous auront persécutés et avec tous ceux qui ont pris part active, une part active à ces persécutions. Je crois que c'est un peu aussi dans cette perspective qu'il faut regarder les choses. On voit aujourd'hui se nouer des alliances, on voit aujourd'hui se nouer beaucoup de violence, de volonté d'extermination, mais en fait, ce que les nations du monde sont en train de faire, c'est tout simplement de préparer l'exercice d'une justice qui ressemblera à la comptabilité qui s'est exercée donc au moment de la sortie d'Égypte. Voilà, excusez ces paroles un petit peu agressives, mais je pense qu'aujourd'hui, dans le climat dans lequel on vit, il faut que chacun ait la émouna, la foi, le bitachon, la confiance en Dieu, de comprendre que Dieu conduit son monde et qu'il n'y a pas de hasard et que les choses obéissent à un but que nous ne connaissons pas encore, que nous ne vivons pas encore, mais qui nous a été annoncé et qui, à l'instar de ce qui s'est passé à la société d'Égypte, eh bien, s'exercera également à la fin des temps contre tous nos ennemis. Et on espère que cet épisode est pour bientôt.
Rav Mordechai Biton à Jérusalem, je vous remercie. Bonsoir à vous et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Chag Sameach, Moedim Lesimcha et Bezrat Hashem, que nous méritions la Geoula finale Berachamim, la délivrance finale Berachamim, dans la bonté et dans la miséricorde pour Am Israël.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. Je vous souhaite à tous et à toutes Shabbat Shalom et comme on dit, Moedim Lesimcha. Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmarihi. Shav shokat shoy mai, Hashem lo yirne bayis. Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmarihi. Shav shokat shoy mai.